une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous pour faire le tour des actualités. Alex, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Florence vient de nous envoyer ça.
Oui, c'est la PDG du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, hein, qui au lendemain là, du dépôt du rapport de la coroner, Jeanne Camel, là, entre autres là, sur les CHSLD, ben ne sera pas reconduite dans son mandat. Elle a annoncé qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat. On se souviendra, là, elle était quand même controversé, disons, là, ses interventions. Là,
étaient... Oui, c'est elle qui a fait un appel fabriqué là, avec une firme de communication là, pour dire oui, là, on a de la misère. Puis c'est enregistré pour être sûr de pouvoir dire qu'elle avait averti les autorités, ce qui était complètement fabriqué.
Alors, disons que ça ne l'a pas aidé, pas servi à solliciter un nouveau mandat. Ouais. On lui souhaite bonne continuation pour la suite.
Pas aller chez Cogeco faire les insolences d'un téléphone. Ça va être à la hauteur de... situation. OK. Aussi, tu veux faire le suivi là de cet assassin raciste d'hier là, qui a tué 10 personnes à Buffalo.
Oui, puis on en parle entre autres parce que Joe Biden se rend à Buffalo aujourd'hui. Il va prononcer un discours entre autres là pour désigner le massacre comme ce qu'il est, du terrorisme motivé par une idéologie haineuse, perverse. C'est le mot que Joe Biden a utilisé là-dessus. Il va être accompagné de son épouse parce qu'on continue à apprendre là, toutes sortes de détails. Entre autres, là, moi, je suis plusieurs experts qui décortiquent ce genre de haine en ligne-là. Et on apprend, entre autres, que ben le manifeste de 180 pages qu'il a laissé est accompagné également de plusieurs centaines de pages de journal intime, l'espèce de recueil de ses pensées de ce tueur-là de 18 ans dans ses dernières années, dans la radicalisation qu'il a suivi. C'est des archives qui sont à la fois un peu précieuses si on veut comprendre le processus de radicalisation, mais également extrêmement inquiétantes parce qu'il décrit, lui, en détail comment il s'est procuré son équipement, son entraînement. C'est vraiment un blueprint, là, vraiment un plan de match, si on veut, pour répliquer ce genre d'attentat de terrorisme intérieur ailleurs. Donc, il faut faire extrêmement attention. Si vous trouvez une copie sur Internet, rapportez-le aux autorités. Il ne faut pas que ça se propage, disons, le moins possible. Et on apprend aussi que dans les semaines qui ont précédé tout ça, ce tueur-là, ben, il a fait toutes sortes d'actes qui pouvaient, disons, faire tirer la sonnette d'alarme. Il a, entre autres, décapité un chat dans son garage, on y apprend. Ses parents ont été témoins de la scène ou de l'après-scène et on l'ont aidé à l'enterrer, tout simplement, y apprend-on. Alors, au lieu de, évidemment, de voir un signe de violence.
C'est le même gars, là, qui voulait tuer tout le monde dans ses classes.
On parle du même individu.
Une journée et demie à l'hôpital.
Et quelques temps avant, il aurait liquidé même certaines de ses possessions. Là, lui avait de l'argent, hein, des investissements en argent pur.
Oui.
Puis, je parle pas de l'argent billet, mais vraiment l'argent pur, ce qui est habituellement un signe des gens qui ont pas confiance en le système monétaire, puis qui se radicalisent souvent. Mais il a liquidé ça pour s'acheter toutes sortes de choses. C'est toutes sortes de signes qui peuvent montrer qu'il y a une radicalisation qui s'en vient, disons, qui n'ont pas été du tout récupérés par personne et qui, malheureusement, mènent à ce massacre-là.
Quand je disais les parents qui doivent surveiller ce qui se passe, quand les parents découvrent que leur gars
a décapité un chat.
Décapite un chat dans le garage, tu fais plus que juste l'enterrer dans la cour, pas le chat. Tu appelles la police, tu dis t'as besoin d'aide. Si t'as du plaisir à décapiter un chat, t'as peut-être un problème, mon petit minou.
C'est effectivement un signe de violence. Joe Biden qui va, c'est certain aussi, appeler à réguler davantage les armes à feu, même si on se doute très bien que malheureusement, ça va rester lettre morte une fois de plus aux États-Unis. Déjà plus de 200 là, fusillades importantes, massacres par armes à feu cette année.
L'Ukraine.
En Ukraine, ben, les négociations de paix, on apprend, sont suspendues en ce moment parce que du côté ukrainien, on dit que Moscou ne veut rien comprendre, fait preuve d'incompréhension totale, ne comprennent pas que les termes de la guerre ont changé, hein, qu'ils n'ont pas eu la victoire rapide qu'ils espéraient. Maintenant, ils refusent de bouger sur leurs conditions là de paix en ce moment. Continuent de maintenir les mêmes conditions, même s'ils perdent du terrain dans certaines sections de l'Ukraine, en gagnent dans d'autres. Ils disent entre autres que ben les oligarques russes ou les puissants du monde russe ben, ne veulent pas comprendre maintenant que les termes ont changé. Que ça va coûter peut-être plus cher, ça va être plus douloureux de mettre fin à ce conflit-là pour eux et donc ne veulent rien comprendre. Alors on dit que la dernière rencontre des deux délégations remonte maintenant au 22 avril. C'est ce qu'on apprend, que ça n'a pas bougé depuis. Du côté des Russes, évidemment, on accuse l'Ukraine de faire semblant de discuter et de gagner du temps pendant ce temps-là. Donc, on ne voit pas d'issue diplomatique pour l'instant à ce conflit-là, malheureusement.
Bon, la Suède et la Finlande, nouveau candidat pour l'OTAN.
C'est officiel, on en parlait déjà depuis un moment, mais demain, ils vont déposer conjointement leur candidature à l'OTAN. Ils l'ont annoncé là, aujourd'hui ensemble, la première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinisto. Ils étaient ensemble, c'est une visite diplomatique qui se faisait, et tout ça survient juste après le vote qui est finalement passé au Parlement finlandais. Une majorité écrasante, plus de 95% ont voté oui pour l'adhésion. 188 voix contre 8 seulement, aucune abstention. Donc ça va aller de l'avant et on apprend du même coup que jeudi, les deux vont se rendre à Washington pour rencontrer le président Joe Biden pour discuter justement de cette adhésion-là. Faut dire, on se rappellera que c'est pas fait encore. Il y a 30 membres dans l'OTAN. Il faut que ce soit unanime comme décision d'inclure quelqu'un. La Turquie sont en train de jouer un jeu, disons, politique en arrière. Veulent qu'il y ait certaines concessions qui leur soient données, entre autres, qu'on puisse leur permettre d'acheter des F-35 américains. Bref, il va y avoir un jeu politique qui va jouer. Ça se fait pas rapidement, une adhésion à l'OTAN. Ça pourrait prendre encore un an avant que ce soit chose faite.
Puis, un suspect lié à des fusillades à Montréal qui a été épinglé.
Ouais, Steve Napoléon, un fugitif de 19 ans qui est recherché maintenant depuis le mois de janvier, parce que il serait présumé là un des tireurs dans les fusillades qui sont survenues, là, trois fusillades, je sais pas si t'en souviens, en l'espace de 24 heures dans Montréal Nord justement au mois de janvier, avec trois fusillades rapidement, mais on a fini par l'épingler vendredi dans son appartement de la rue Salaberry dans Antique Quartierville, a comparu samedi justement au palais de justice de Montréal, plusieurs accusations entre autres d'armes à feu, on a trouvé une arme de poing chez lui, des armes à air comprimé, des munitions, des comprimés de méthamphétamine lorsqu'on a perquisitionné son domicile. Et c'est spécial parce que les enquêteurs du SPVM, comme je l'ai dit, depuis le 22 janvier, sont assez trousses et ils ont failli mettre la main au collet lorsqu'ils l'ont intercepté par des infractions de la route. Il y avait un conducteur avec lui qui conduisait un véhicule, il avait pas le droit de rouler avec son permis. Steve Napoléon était le passager, a dit un faux nom lorsqu'on lui a demandé de s'identifier. Et lorsque les policiers sont revenus à la voiture, il a pris la fuite en courant. Donc, ils sont passés très, très près de l'épingler. Mais maintenant, c'est chose faite. Dans ce véhicule-là, ils avaient retrouvé, entre autres, deux armes à feu et plusieurs douilles, ce qui signifiait que peut-être ce véhicule a été utilisé pour tirer en mouvement.
OK. Et avant qu'on se quitte, une histoire de chien?
Une histoire de chien, un maître et son chien là, qui ont été grièvement blessés par deux autres chiens dimanche soir aux abords là, du lac Lémy en Outaouais. Entre autres, les deux bêtes qui sont un pitbull, un rottweiler, qui était laissé sans surveillance par la propriétaire, une femme qui était étendue inconsciente sur le bord du lac, dit-on, en état d'ébriété très avancé. Et donc, ne surveillait pas ses chiens, ne tenait pas les laisses. Et en terminant leur marche, l'homme et son chien ont été attaqués, là, vraiment, ont saigné beaucoup. Le propriétaire a dû dépenser là, près de 2 000 $ à date en frais de vétérinaire pour tenter de sauver son chien. Et pour l'instant, il y a seulement 3 infractions municipales, 3 constats qui ont été donnés à la femme. Entre autres, pas de médaille pour le chien, pas avoir tenu un chien en laisse en lieu public et qu'ils aient mordu quelqu'un. Il y a toujours pas d'infraction au niveau criminel qui ont été donnée à cette femme-là.
Un rottweiler puis un pitbull.
Laissé sans surveillance parce que madame était trop saoule sur le bord de lac.
Chaude. Eh ben c'est chic, hein? C'est chic et c'est dangereux. Puis il y a pas de conséquences.
Il y a des conséquences municipales. Wow. Les toutous avaient pas de médaille.
Ben. Oh, les toutous. Puis eux autres sont pas euthanasiés, là.
Pour l'instant, l'histoire ne le dit pas, mais semble-t-il que non, il ne soit pas euthanasié. Il y a des amendes quand même pour qu'il ait mordu quelqu'un, mais
il est pas
rien au criminel.
Bon, ils n'auront pas de biscuits ce soir. Merci, Alex.
Salut.